8h sur France Culture. Bienvenue si vous nous rejoignez, nous sommes le mardi 30 août 2016. Voici le journal d'Amélie Perrier. Bonjour Amélie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Un redressement fiscal en milliards d'euros. La Commission européenne est sur le point d'épingler l'Irlande pour avoir permis au groupe Apple une optimisation fiscale à très grande échelle. On vous explique tout dans un instant avec Marie Viennot.
Des entreprises très courtisées par les candidats à la présidentielle, l'université d'été du MEDEF s'ouvre aujourd'hui.
La place de l'islam en France, au cœur aussi de la campagne présidentielle en cette fin d'été, des représentants des musulmans de France étaient invités hier au ministère de l'Intérieur où il a été question de la formation des imams.
Et puis nous irons à l'étranger, nous verrons pourquoi les États-Unis s'y de l'offensive des Turcs contre les Kurdes, deux alliés des Américains.
Et nous irons au Brésil, où la présidente Dilma Rousseff a jeté ses dernières forces hier soir dans la bataille pour garder la présidence du pays. Le temps des passe-droits fiscaux et des gros avantages pour les très grandes entreprises pourrait être révolu. La Commission européenne s'apprête, selon plusieurs sources, à rappeler sévèrement à l'ordre l'Irlande pour avoir permis au groupe Apple de payer un minimum d'impôts et de taxes. Sévèrement, cela veut dire des milliards d'euros de rattrapage. Bruxelles accuse depuis plusieurs années Dublin de contourner le droit fiscal international en laissant Apple domicilier sur son sol des dizaines de milliards de dollars imposables. Marie Viennot, notre spécialiste économie, vous nous avez rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Alors cette pratique, on l'appelle du mot anglais « ruling ». D'abord, c'est quoi le ruling, Marie ?
Alors un ruling, c'est un accord qu'une entreprise passe avec l'administration fiscale d'un pays pour déterminer les modalités de son imposition. En français, on appelle ça un rescrit fiscal. Cela permet aux entreprises de connaître à l'avance et sur plusieurs années le montant de leurs impôts. C'est tout à fait légal. Là où ça ne l'est plus vraiment, c'est quand les arrangements passés entre le fisc et l'entreprise ne sont plus conformes à la réalité économique. C'est ce qui a conduit d'ailleurs la Commission européenne à demander au Luxembourg et aux Pays-Bas de revoir les rulings conclus avec Fiat et Starbucks il y a un an. Cette fois, cela va un peu plus loin. La Commission enquête depuis 3 ans sur les accords passés entre Apple et l'Irlande. Et il s'avère qu'entre 1991 et 2007, la firme américaine n'a payé que 2% d'impôts sur ses profits, alors que le taux officiel d'imposition irlandais est de 12,5%. Selon les services de la commissaire à la concurrence Margaret Vertager, qui gère ce dossier, le ruling passé entre Apple et l'Irlande reviendrait à une aide d'État. Procédé illicite équivaut amende. Alors jusqu'à maintenant, la plus grosse avait été infligée à EDF vis-à-vis de la France, 1,4 milliard d'euros. Là, les chiffres évoqués vont de 8 à 19 milliards d'euros. Énorme, me direz-vous, mais pas tant que ça pour Apple, qui fait 10 milliards de dollars de profit par trimestre.
Alors Marie, c'est l'Irlande qui recevrait le produit de cette amende, mais le pays n'en voudra sans doute pas.
Bah oui, comme les Pays-Bas et le Luxembourg l'ont fait, l'Irlande fera appel de cette décision pour soutenir Apple. Ce que veut l'Irlande, ce ne sont pas des impôts, mais des emplois. Il y a 5000 salariés Apple dans le pays et au-delà de tout, ce que veut l'Irlande, c'est garder son statut de quasi-paradis fiscal au sein de la zone euro. Apple, Pfizer, Microsoft, Google, Facebook ont leur siège européen en Irlande. Alors Dublin a déjà annoncé qu'en cas de condamnation par la Commission, elle ferait appel devant la Cour de justice européenne. L'issue de cette bataille n'est pas pour demain, mais clairement, l'ancienne ministre danoise des Finances, qui est à la tête de la direction de la concurrence, a décidé de la mener.
Marie Viennot, merci beaucoup. C'est un autre gros dossier en suspens pour la Commission européenne, le TAFTA, TTIP ou encore traité de libre-échange transatlantique. Le français Matthias Fekl, le secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, annonce ce matin qu'il demande l'arrêt des négociations entre l'Europe et les États-Unis. Déjà ce week-end, le vice-chancelier allemand Sigmar Gabriel a assuré que les discussions avaient échoué. La Commission à Bruxelles se voulait jusque-là beaucoup plus rassurante sur un accord. Les entreprises françaises, cette fois à l'honneur avec le rendez-vous incontournable des patrons. L'université d'été du MEDEF s'ouvre aujourd'hui sur le campus d'HEC à Jouy-en-Josas, en région parisienne. Une édition où sont invités cette année quelques ministres, dont Emmanuel Macron. Et toutes les têtes d'affiche de la primaire à droite, Juppé, Sarkozy, Fillon ou encore Le Maire. Car les patrons comptent bien peser sur les programmes de l'élection présidentielle. Et les candidats vont tout faire pour les séduire, Jean-Marc Chardon.
Il n'y a aucun doute, l'université d'été du MEDEF va jouer comme le coup d'envoi de la campagne présidentielle sur le terrain économique. Le moment de tester les responsables politiques sur leurs intentions, ce qui ne constitue pas une première. L'exercice est devenu un classique à quelques mois d'une présidentielle. L'enjeu pour le patronat, c'est d'arriver avec des propositions, de les faire avancer partiellement d'une conférence débat à l'autre et de donner en même temps la parole à des acteurs de la société civile, les dirigeants politiques étant les plus attendus. Officiellement, Pas question de prendre parti. Laurence Parisot, en 2006, alors présidente du MEDEF, assure qu'il n'y aura pas de soutien de l'organisation à tel ou tel candidat, mais le MEDEF propose de relever l'âge de la retraite et l'année suivante, ses dirigeants pressent Nicolas Sarkozy de confirmer ses propres engagements. Au fil des années, c'est l'emploi qui devient le point de jonction le plus tangible entre patrons et politiques, la priorité des priorités, affirme Laurence Parisot. La quête de l'emploi, l'argument réitéré maintes fois, quelques années plus tard par son successeur, Pierre Gattaz, lequel conçoit le PINS du million d'emplois. Sauf que, sur la méthode, les divergences reviennent à chaque fois. Elles se focalisent principalement sur la fiscalité, le poids des charges, l'allègement de la réglementation. Vu du MEDEF, pacte de responsabilité, CICE et loi travail vont peut-être dans le bon sens, mais ni assez vite, ni assez fort. Pas question pour autant de donner l'impression de susciter une quelconque surenchère des programmes. Cela, c'est à vous. L'exercice est donc plus complexe qu'il y paraît, mais à coup sûr incontournable.
La campagne pour la présidentielle, c'est aussi le meeting de rentrée hier soir du gouvernement à Colomiers, près de Toulouse. Les ministres présents ont fait taire leur divergence sur le burkini pour s'attaquer à un adversaire, la droite, et en particulier Nicolas Sarkozy. Son programme, a lancé le chef du gouvernement Manuel Valls, est une menace considérable, un programme brutal d'affrontement. Et le chef du gouvernement d'appeler à l'unité dans son camp, un camp donc partagé ces derniers jours sur le burkini. Marianne n'est pas voilée parce qu'elle est libre, c'est ça la République, a martelé Manuel Valls. La place de l'islam dans la République, c'était aussi l'objet d'une réunion très attendue hier, place Beauvau à Paris, sous l'égide du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Il a reçu toute la journée des représentants des musulmans de France et au menu, notamment, la question de la formation des imams. Il y a un an à peine, Paris signait une convention avec le Maroc pour former des imams à l'étranger. Désormais, Bernard Cazeneuve veut des imams français et formés en France. Explication avec Willy Moreau.
La tâche est importante. D'abord, plus d'un imam sur deux est étranger. Et puis, il existe plus de 2500 mosquées alors que les instituts délivrant une formation théologique en France se comptent sur les doigts d'une main. L'association cultuelle devra donc étoffer l'offre. Mais là se pose la question de quel islam enseigner puisque les idéologies sont très nombreuses. Et surtout pour Abderrahim Afidi, politologue et islamologue, l'enseignement religieux doit être centré sur la culture française.
Il y aura toujours des prêches, il y aura une demande de l'islam, des musulmans. Eh bien, autant leur donner quand même le moyen d'écouter une parole religieuse, mais une parole construite, un islam conforme à sa tradition et qui doit s'inscrire dans son environnement. Ça commence dans les mosquées de Bordeaux, dans les mosquées de Marseille, dans les mosquées de Strasbourg. Nous sommes dans cet islam-là. Mais il y a des milliers, des centaines de salles de prière qui sont dépourvues d'imams. C'est-à-dire nous avons des imams freelance ou nous avons des imams qui viennent d'ailleurs, ils viennent de l'étranger, il n'a jamais connu la France, il est en train de parler de quoi ? De la France. Donc nous voulons mettre un peu le pays sur la voie justement de la culture française, c'est-à-dire un islam français.
L'islam de France passera également par l'université. Les aumôniers en prison ou dans les hôpitaux et qui sont payés par l'État doivent déjà passer un diplôme universitaire en islamologie. Mais désormais, tous les imams, étrangers ou non, devront suivre des enseignements à la laïcité et devront passer également par une formation théorique sur l'islam. Cela concerne aussi bien l'histoire que la littérature. Impossible de savoir pour le moment combien coûtera l'étendue de cette offre dans les universités. Pour l'instant, des discussions sont en cours. Un rapport doit sortir avant décembre pour donner des éléments de réponse sur le sujet.
Et s'il fallait encore une preuve que ce sujet reste hautement inflammable, la nomination de Jean-Pierre Chevènement à la tête de la Fondation de l'Islam, dont il a été question également hier place Beauvau, ne cesse de soulever critiques et incompréhension. Avec l'apparition hier d'un mot-clé sur Twitter, « Je connais bien le monde musulman », phrase prononcée le matin même sur France Inter, « Je connais bien le monde musulman, je suis allé au Caire et à Alger il y a 40 ou 50 ans », a-t-il dit. Et la phrase est reprise et complétée avec toute l'ironie possible sur le réseau social. Exemple, « Je connais bien le monde musulman car j'ai écouté Faudel » ou encore « Je connais bien le monde musulman, je compte en chiffres arabes ». Cet été, Jean-Pierre Chevènement avait aussi appelé les musulmans à la discrétion. Autant de déclarations qui passent mal, surtout à gauche. Écoutez Stéphane Troussel, le président socialiste du conseil départemental de Seine-Saint-Denis.
De quoi parle-t-il ? De qui parle-t-il ? Des gens dont la couleur de peau serait un peu plus foncée ? Des gens qui s'appellent Mamadou ou Fatima ? Des gens dont les parents ou les grands-parents ou les arrière-grands-parents sont nés de l'autre côté de la Méditerranée ? Mais ils sont français. Ils sont, pour la plupart d'entre eux, s'ils parlent des habitants de Saint-Denis, nés à Saint-Denis, comme moi, il y a 46 ans. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de couleur de peau ou de consonance de nom qui déterminerait la nationalité ? Il y a là une grande confusion des esprits, mais qui va avec le climat du moment, qui est insupportable.
Stéphane Troussel, socialiste, il dirige le conseil départemental de Seine-Saint-Denis et répondait à Stanislas Vazak.
8h10 sur France Culture, la suite du journal. Amélie Perrier avec dans l'actualité ce matin l'ultime plaidoyer de Dilma Rousseff au Brésil.
La dirigeante a défendu son cas hier devant les sénateurs pour tenter d'échapper à une destitution plus que probable. Dilma Rousseff est accusée d'avoir maquillé les comptes publics pour être réélue en 2014. Elle dénonce un coup d'État fomenté par l'opposition. Notre correspondante Anne Vignat a suivi son audition.
Dilma Rousseff n'a pas flanché et s'est défendue pendant plus de 13 heures, répondant aux 43 sénateurs qui voulaient l'interroger. Durant ce marathon, elle a eu l'occasion de revenir sur l'ensemble de sa trajectoire politique, alors qu'elle était réduite au silence depuis 104 jours. Dilma Rousseff a reconnu beaucoup d'erreurs. Elle a en particulier fait amende honorable sur son incapacité à dialoguer avec le Parlement, ce qui a plongé le pays dans une grave crise politique et économique. Dilma Rousseff a rappelé que le Brésil, comme l'ensemble des pays BRICS, connaît depuis 2 ans un ralentissement de la croissance, dû entre autres à la chute des prix des commodities. Mais selon la présidente, le blocage qu'elle a connu avec le Congrès a empêché de prendre les bonnes mesures. Dès 2015, Dilma Rousseff a souhaité mettre en place la même politique d'austérité que le vice-président Temer propose d'implanter à présent. Cette politique qui l'éloigne des mouvements sociaux à gauche est alors rejetée au Congrès qui devrait à présent la valider. Dilma Rousseff a répété que sa destitution avait été une obsession de ses opposants dès sa réélection en octobre 2015. Et qu'elle se battait contre une élite qui voulait stopper la politique et les avancées sociales conquises pendant 13 ans de gouvernement du Parti des Travailleurs. Elle a appelé la population à résister et à défendre la démocratie, une population qui est bien descendue dans la rue lundi soir dans les principales villes du pays.
La correspondance d'Anne Vignat à Rio au Brésil et un dernier débat doit avoir lieu aujourd'hui au Sénat avant le vote décisif des élus. À l'étranger encore, l'offensive turque en Syrie préoccupe aujourd'hui l'allié américain car les États-Unis, s'ils soutiennent Ankara dans sa lutte contre les djihadistes de Daesh, soutiennent aussi les combattants kurdes qui sont la cible des bombardements turcs. Washington a annoncé hier une rencontre entre les deux présidents, Barack Obama et Recep Tayyip Erdogan. Ce sera dimanche en marge du G20 en Chine, une rencontre pour éviter l'embrasement. Frédéric Carbone.
Dans ce bourbier syrien, les États-Unis se retrouvent dans la position intenable de la grande puissance, militairement impuissante, et qui voit deux alliés indispensables se faire la guerre. D'un côté, les forces kurdes, les meilleurs partenaires du Pentagone, ceux qui sans relâche combattent Daesh et ont notamment remporté la bataille de Kobané. Et de l'autre côté, la Turquie, rentrée plus tardivement dans le conflit, mais qui combat à la fois les djihadistes et l'ennemi kurde permanent. Elle veut que cette zone à sa frontière soit contrôlée par des rebelles syriens modérés. Les États-Unis s'efforcent donc sans grand succès de raisonner les belligérants. Ils demandent aux Turcs de cesser ces bombardements inacceptables et ils réclament aux Kurdes de se tenir en retrait. Cette guerre dans la guerre est la pire nouvelle pour Washington. Elle illustre aussi la force des conflits régionaux antérieurs et la difficulté d'envisager un avenir politique pour la Syrie. Tout cela sera sur la table de Barack Obama et Recep Tayyip Erdogan en fin de semaine. Les deux présidents n'ont pas eu de réel tête-à-tête officiel depuis des mois et ils ne se sont pas parlé depuis le putsch manqué de la mi-juillet, un putsch dont Erdogan attribue la responsabilité à un opposant réfugié aux États-Unis.
Frédéric Carbone à Washington pour France Culture. Et les djihadistes de Daesh font un carnage aussi au Yémen. Un attentat suicide revendiqué par le groupe a tué hier à Aden au moins 71 personnes. On compte aussi une centaine de blessés, dont de nombreuses jeunes recrues de l'armée yéménite. Une illustration des difficultés du pouvoir à rétablir la sécurité à Aden, pourtant déclarée capitale provisoire du Yémen. Conséquence de ces conflits, mais aussi des famines, des régimes autoritaires, l'exode des populations. Et le chiffre donne le vertige. Rien qu'hier, 6500 migrants ont été secourus en Méditerranée. Les gardes-côtes italiens ont annoncé avoir coordonné une quarantaine d'opérations de sauvetage lors de ce qui s'avère l'une des journées les plus chargées de ces dernières années. L'Italie a déjà recueilli depuis le début de l'année 105 000 migrants arrivés par la mer.
Hold your breath. Make a wish. Count to three.
Mais pour finir, un sourire, celui de Gene Wilder, ce monstre de la comédie américaine, s'est éteint hier à l'âge de 83 ans.
Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Take a look and you'll see into your imagination.
Mais vous pouvez continuer à chanter.
Ah non, je crois que ça gâcherait tout.
Pas du tout.
Mais non, ici, Gene Wilder est l'interprète historique ici, donc de Willy Wonka dans la version de Charlie et la chocolaterie en 71. Il a été aussi l'acteur fétiche des comédies de Mel Brooks, dont Les Producteurs et puis Frankenstein Junior. On retiendra aussi son rôle de zoophile. Il tombe amoureux d'un mouton dans tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe.
Vous retenez ce que vous
voulez. Sans jamais oser le demander. Signé Woody Allen. Woody Allen. Allez, on termine par le temps de ce mardi. Le retour du soleil et de la chaleur. On attend ce matin entre 11 et 15 degrés en général. Et cet après-midi, 24 degrés à Bayonne, 25 à Lorient, 27 à Paris, 29 à Lyon et Grenoble et 33 degrés du côté de Montpellier, Guillaume Erner.
Merci beaucoup, Amélie Perrier.